Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'épisode précédent, le 11e, nous a fait pénétrer dans la nuit du désespoir qui va se transformer peu à peu dans une nuit d'ouverture, éclairée par la résurrection. Nous avons vu le détail de cette avancée. Marc va nous faire encore procéder jusqu'à l'aube, à travers deux épisodes ou trois qui vont encore pour nous être très éclairants. Continuons de veiller avec lui.
Jésus est emmené sous bonne garde chez le grand prêtre où se réunissent tous les chefs de prêtres, les anciens et les scribes. Pierre s'est un peu ressaisi. Il suit de loin et réussit à pénétrer à l'intérieur de la cour. Il se mêle aux gardes et aux serviteurs qui vont et viennent et s'assoit lui aussi autour du brasero, car l'aube est très froide. Là-haut, dans la salle des délibérations, les tribunaux cherchent un témoignage pour accabler Jésus. Mais tout ce que les pseudo-témoins avancent ne concorde pas. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme, lui. » Même sur ce point, ils n'arrivaient pas à un accord. Alors le grand prêtre se leva solennellement au milieu d'eux. « Tu ne réponds rien. Tu te rends compte de ce dont on t'accuse ?» Mais Jésus se tait. Pas un mot. Il semble parfaitement étranger à toute l'agitation qui l'assaille. Le grand prêtre revient à sa charge. « Est-ce toi le Messie, le Fils de Dieu béni ?»« Oui, » claque la réponse. « Et vous verrez le Messie assis à la droite du Tout-Puissant sur le trône divin. » Alors le grand prêtre déchire sa tunique dans une grande gesticulation. Il se met à crier en suffoquant. « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Tout le monde a entendu le blasphème. Qu'est-ce que vous dites ? La mort !» Certains se mettent à lui cracher dessus. D'autres lui couvrent le visage et le giflent. « Fais le prophète !» Les gardes ne se gênent pas non plus en prenant livraison. Pendant ce temps, Pierre est resté dans la cour en bas. Une servante du grand prêtre qui passe l'aperçoit qui se chauffe. Elle le fixe puis l'apostrophe. « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?»« Je ne comprends pas ce que tu racontes, » proteste-t-il aussitôt en sortant dans le vestibule. Un coq chante au loin. En repassant une seconde fois, la servante l'aperçoit de nouveau et elle répète aux autres « Je vous dis que c'est l'un d'entre eux !» Mais Pierre nie une seconde fois. Maintenant, ce sont tous ceux qui traînent encore dans la cour qui s'adressent à Pierre. « C'est bien vrai, tu es des leurs, et puis tu es bien galiléen, non ?» Une troisième fois, il se met à jurer en hurlant « Je ne connais même pas l'homme dont vous parlez !» Et de nouveau, un coq chanta. Et Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait prédit. « Avant le deuxième chant du coq, tu m'auras renié 3 fois. » Il quitta la cour précipitamment. Il pleurait. Le jour finit par se lever. Dernière concertation des chefs des prêtres avec les anciens, les scribes et tout le tribunal. « Livrez Jésus à Pilate. On doit traverser pratiquement toute la ville qui commence à s'éveiller. » Pilate, malgré l'heure matinale, accepte de les recevoir. « C'est donc toi, le roi des Juifs » demande-t-il à l'espèce de hère qui est devenu Jésus, couvert d'échymoses et de crachats séchés. « C'est toi qui le dis, » souffle Jésus, tandis que les chefs des prêtres multiplient les accusations contre lui. « Tu ne réponds rien, » s'enquiert à nouveau Pilate. « Te rends-tu compte des chefs d'accusation ?» Mais Jésus ne répond plus rien, et Pilate devient perplexe. Le procurateur, à bout de ressources, arpente maintenant la galerie de la tour Antonia. Autour de lui, le silence s'est fait. On attend une décision, sa décision. Il s'est arrêté face à l'immense cour intérieure du temple que domine la forteresse de la garnison. Il se souvient qu'à chaque fête, il leur relâche un prisonnier de leur choix. Or, un certain Barabbas est en prison avec des émeutiers pour meurtre lors d'une insurrection. La foule monte déjà au pied de la galerie et commence à réclamer. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» leur crie Pilate, pensant que cette idée le dispensera de prendre une décision difficile. D'autre part, il voit bien que les chefs des prêtres sont jaloux du succès et de l'influence de Jésus. Mais eux excitent la foule en faveur de Barabbas. « Mais que faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Un seul cri soudain couvre la rumeur de la ville. « Crucifie-le !» Mais quel mal a-t-il fait ? De plus belle résonne leur « Crucifie-le !» Pour contenter la foule et s'en débarrasser, Pilate relâche Barabbas. Quant à Jésus, il le leur livre pour être flagellé et crucifié, le châtiment des esclaves et de tous les non-citoyens romains. Comme une meute de hyènes, la soldatesque traîne Jésus dans ses quartiers sous le palais du prétoire. Toute la cohorte est convoquée. Jésus est dénudé puis revêtu de la cape pourpre d'un légionnaire, et on lui enfonce dans les cheveux une couronne d'épines tressées. « Shalom, salut, roi des Juifs !» On le salue, on le frappe sur la tête avec un roseau, et on lui crache dessus en se prosternant genoux pliés. Et quand ils l'ont bien bafoué, ils lui ôtent la cape pourpre, lui rendent son vêtement et le poussent dehors pour l'exécution. Jésus est très affaibli. La grosse traverse qu'il doit transporter sur ses épaules risque d'être trop lourde. Dès la sortie de la caserne, les soldats réquisitionnent un passant, un certain Simon de Cyrène, qui rentrait des champs. Il s'agit du père d'Alexandre et de Rufus, que tous connaissent bien. On ne lui a pas demandé son avis, mais il accepte et marche, côte à côte avec Jésus qui se traîne, épuisé, après cette nuit d'angoisse, d'interrogatoire et de passage à tabac. Les badauds regardent blasés, ils en ont tellement vu, ou moqueurs, ils l'avaient écouté en début de semaine dans le temple. On arrive enfin au Golgotha, le lieu dit du crâne, un grand dépotoir où s'amoncent les détritus, animaux crevés et des blés d'hiver. On décharge Simon de son fardeau. On propose à Jésus un peu de vin de myrrhe, une drogue amère en guise de remontant. Jésus détourne la tête. Alors, on le cloue sur la croix. Puis vite, les soldats tirent au sort les diverses pièces de ses vêtements pour savoir qui prendra quoi. Il est environ 9 heures. Les autorités ont fait placer au-dessus de sa tête un écriteau mentionnant le motif de la condamnation, « Roi des Juifs ». Avec lui de chaque côté, on crucifie 2 bandits notoires. Voilà, on attend maintenant qu'il expire. Les passants l'insultent en hochant la tête, signe de grand mépris pour les Juifs. « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même ! Descends donc de la croix !» Les chefs des prêtres qui surveillent les opérations ne sont pas de reste pour le bafouer. Avec les scribes, ils ricanent. Ils en ont sauvé d'autres, et ils ne peuvent se sauver lui-même. « Messie, roi d'Israël, fais-nous voir un peu, descends de la croix, et nous croirons en toi. » Mais ceux que l'on exécute avec lui l'injurient. Il s'est fait midi entre-temps. Pendant les heures qui suivent, le ciel et le soleil semblent ne plus irradier la lumière du jour. Tout est obscur, sombre, éterne. À 3 heures, cela fait plus de 6 heures qu'il agonise entre terre et ciel, seul et abandonné. Jésus clame du plus fort qu'il peut encore. Eloï, Eloï, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certains badauds, attardés, malgré la menace du temps, ont entendu un écho assourdi de sa voix. Tiens, il appelle le prophète Élie maintenant, confondant Eloï, qui veut dire mon Dieu, avec Elia, le nom hébreu du prophète Élie. Un soldat trempe précipitamment un chiffon dans du vinaigre, l'accroche à un roseau et l'approche des lèvres de Jésus en criant à la cantonade « On va voir si Élie va venir le descendre de là !» Alors, dans un long cri, Jésus expira. On rapporte que le rideau qui cachait dans le temple le sanctuaire du Saint des Saints se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, supprimant désormais la barrière entre Dieu et les hommes. Le centurion de service, devant le spectacle de Jésus qui meurt, s'écria « Vraiment, cet homme, c'est le Fils de Dieu !» Des femmes aussi sont là, à distance, interdites d'accès. Il y a Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de José, et Marie-Salomé, qui s'était mise à son service depuis la Galilée, et beaucoup d'autres montaient avec lui à Jérusalem. Pas un homme, que des femmes. Le soir tombe d'un coup, comme impatient d'en finir lui aussi. Les Juifs appellent parasève ou préparation la veille du sabbat. Il faut vite terminer ce qu'on fait pour se préparer dignement à respecter le jour du repos de Dieu. On vit entrer en hâte chez Pilate un noble conseiller de Ramathaïm, un certain Joseph d'Arimathie, qui croyait en Jésus. Il venait réclamer son corps aux autorités. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fait appeler le centurion de service pour confirmation. Renseignement pris, il accorda le corps à Joseph. Joseph acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une sépulture creusée dans le roc. Pour boucher l'entrée du tombeau, il fit rouler une grosse pierre ronde sous les yeux des trois Maries.
Tout a été précipité, non seulement parce que c'est la veille de la grande fête de Pâques, mais tout a été précipité parce qu'il faut tout de suite liquider cette affaire. Elle coûte trop de soucis, que ce soit à Pilate, que ce soit au Sanhédrin, donc la grande assemblée des prêtres, que ce soit au peuple, il faut vite oublier tout cela. En même temps, nous savons que l'évangile de Marc est le plus court. Parce qu'il s'en tient au fait. Nous n'avons entendu aucun commentaire, sinon des précisions de détails. Sinon des précisions de détails lamentables. Celle de Pierre, par exemple. Alors qu'il a partagé avec le dernier pas, de peur, affirme par trois fois ne pas connaître cet homme, ne l'avoir jamais rencontré. Et puis là, lâcheté de César, enfin du représentant de César. Et puis cette lamentable torture, et puis les moqueries. Bref, rien ne lui est épargné. Le soir est tombé, Joseph a pris le corps. La nuit tombe.
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.